Bonsoir à tous, vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC, édition du jeudi 14 mars 2024. John Linden à la présentation. L'ONU s'est dit profondément préoccupée par des restrictions croissantes aux droits humains et aux libertés fondamentales au Mali. Depuis décembre, Bamako a dissous au moins 4 organisations. Le Nigeria ordonne la réouverture immédiate de sa frontière avec le Niger. Elle était fermée depuis le mois d'août après le coup d'État qui a porté les militaires au pouvoir. La Chine accuse Washington d'afficher une mentalité de bandit après l'adoption d'un projet visant à interdire TikTok. Pékin s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de ses entreprises à l'étranger. Les sports et la Minute Éco seront également au rendez-vous. Mais pour commencer, le journal. Le Nigeria ordonne donc la réouverture de ses frontières avec le Niger. Cette mesure fait suite à la décision de la CEDEAO de lever ses sanctions contre ce pays sahélien. Davantage avec Alexandrine Hollignon.
Cette circulaire fait suite à la directive la veille du président Bola Ahmed Tinubu de rouvrir les frontières terrestres et aériennes entre les deux pays conformément aux décisions de la CEDEAO du 24 février. La présidence nigériane a détaillé mercredi dans son communiqué que les frontières aériennes et terrestres devraient être rouvertes, les transactions financières de nouveau autorisées, les comptes et avoirs de l'État nigérien dégelés. Certaines transactions entre les deux pays ont déjà repris depuis plusieurs jours. La fourniture d'électricité du Nigeria vers le Niger a recommencé début mars, mettant fin aux coupures d'électricité qui affectaient le Niger depuis l'arrivée au pouvoir des militaires. Le Nigeria, qui partage 1600 km de frontière avec son voisin, est l'un des principaux partenaires commerciaux du Niger. Le mois dernier, les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO, réunis à Abuja, avait décidé la levée d'une grande partie des sanctions contre le Niger, dirigées par des militaires qui ont renversé le président élu Mohamed Bazoum en juillet 2023.
D'importantes coupures Internet affectent depuis jeudi matin plusieurs pays africains à cause de câbles sous-marins défectueux, ont indiqué des opérateurs du continent. Des ruptures sur de multiples câbles sous-marins ont affecté les services de connectivité dans plusieurs pays ouest-africains, indique un communiqué de l'opérateur sud-africain MTN, qui précise que des opérations sont en cours afin de rediriger le trafic par des voies alternatives du réseau. Le pays le plus affecté par les coupures est la Côte d'Ivoire, suivi du Libéria, du Bénin, du Ghana et du Burkina Faso. De nombreux autres pays à travers le continent sont également affectés. En Guinée, la junte au pouvoir annonce la composition d'un nouveau gouvernement. Le décret de nomination de la nouvelle équipe a été diffusé à la télévision d'État hier soir. Les portefeuilles de la justice et des mines sont confiés à de nouveaux titulaires, tandis que les ministères de la Défense nationale, de la Sécurité et des Affaires étrangères conservent leurs dirigeants. Ce nouveau gouvernement guinéen renouvelé comprend 29 membres, principalement issus de l'administration publique. Nous y reviendrons en partie magazine. Le président sénégalais Macky Sall a demandé mercredi à son gouvernement de procéder sans délai à l'application de la loi portant amnistie dès sa promulgation qui serait imminente selon la presse locale. L'opposant Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle, et son chef Ousmane Sonko, également détenus, en sont présentés comme les principaux bénéficiaires potentiels. Monsieur Faye est empêché de défendre sa cause en personne auprès des électeurs depuis l'ouverture de la campagne le 9 mars. Les Nations Unies se disent profondément préoccupées par la dissolution d'organisations de la société civile au Mali et des restrictions croissantes aux droits humains et aux libertés fondamentales. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
D'après le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, depuis décembre dernier, au moins 4 organisations ont été dissoutes, dont la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko et l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Mercredi, le gouvernement a annoncé la dissolution de l'Association des élèves et étudiants du Mali, qu'elle accuse d'être responsable de violences et d'affrontements depuis plusieurs années dans le milieu scolaire. Le communiqué fait état d'affrontements armés entre les différents clans de ladite association, dont le dernier en date, le 28 février, a causé la mort d'un jeune étudiant, et plusieurs blessés graves. Nous appelons les autorités de transition à permettre aux organisations dissoutes de reprendre leurs activités, déclare le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Il juge essentiel que les autorités protègent l'espace civique et garantissent le plein respect des droits du Mali et qu'elles se conforment à leurs obligations en vertu du droit international et régional en matière de droits humains.
Les Nations Unies se disent profondément préoccupées par la dissolution. Non, on vient de passer cette info. Le gouvernement ivoirien a pris des mesures d'aide au relogement après les expulsions de milliers d'habitants et la destruction de quartiers précaires d'Abidjan. Le soutien de l'État sera de 250 000 francs CFA par ménage, fait savoir le porte-parole du gouvernement qui a également annoncé la location d'une aide à la construction d'un montant forfaitaire d'1 million de francs CFA par famille. Enfin, le gouvernement propose la mise à disposition d'un terrain de 75 mètres carrés ou 100 mètres carrés selon la taille de la famille avec la signature d'un bail d'une durée de 20 à 25 ans pour un loyer de 10 000 francs CFA par mois avant de devenir propriétaire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken se rend à Vienne vendredi pour participer à une conférence de l'ONU sur les drogues avant de se rendre en Corée du Sud et aux Philippines, a annoncé jeudi le département d'État. Blinken doit participer vendredi aux travaux de la commission sur les stupéfiants de l'ONU réunie jeudi et vendredi à Vienne pour aborder notamment le fléau du fentanyl, cette drogue de synthèse qui fait des ravages ici aux États-Unis. Le secrétaire d'État américain a mis en place une coalition de 149 pays pour lutter contre le fentanyl qui transite pour beaucoup par le Mexique et est le plus souvent fabriqué à partir de précurseurs fabriqués donc en Chine. La Chine qui a dénoncé jeudi ce qu'elle appelle des méthodes de voyous après un vote au Congrès américain qui renforce la menace d'interdiction aux États-Unis de l'application chinoise TikTok au nom de la sécurité nationale. Le point avec Rosine Mounezero.
Le texte de loi adopté à une large majorité de 352 voix sur 432 élus n'interdit pas TikTok, a fait valoir le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, qui a voté en faveur de la proposition. Cette mesure exige que ByteDance, la société mère de TikTok, vende l'application dans un délai de 180 jours, faute de quoi elle sera exclue des boutiques d'applications d'Apple et de Google aux États-Unis. Cependant, le sort du projet de loi est incertain au Sénat, où des personnalités de premier plan s'opposent à une mesure aussi radicale contre une application qui a 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Le président Joe Biden a déclaré qu'en cas d'adoption au Sénat, il va promulguer ce texte. L'ancien président Donald Trump a opéré un revirement en affirmant lundi qu'il est opposé à une interdiction parce qu'elle peut renforcer Meta, le propriétaire d'Instagram et de Facebook, qu'il a qualifié d'ennemi du peuple.
Le pont aérien annoncé mercredi entre Haïti et la République dominicaine pour notamment acheminer de l'aide humanitaire à la population haïtienne victime d'une crise multidimensionnelle devrait être opérationnel aussi vite que possible, a indiqué l'ONU jeudi. La mission de l'ONU avait annoncé mercredi ce pont aérien notamment pour permettre la fluidité de l'aide humanitaire vers Haïti où l'aéroport international reste fermé. Selon Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, la situation humanitaire et le manque de financement pour aider la population haïtienne préoccupent profondément les Nations Unies. La guerre en Syrie a fait plus de 500 000 morts en 13 ans, selon les estimations d'une ONG locale rendue publique ce jeudi, à la veille du 13e anniversaire du conflit. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé au Royaume-Uni, mais qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre, plus de 164 000 civils ont été tués, dont plus de 15 000 femmes et 25 000 enfants. L'ONG estime que plus de 343 000 combattants ont été tués, parmi lesquels des militaires de l'armée du régime, des combattants de groupes pro-iraniens, des forces dirigées par les Kurdes et des djihadistes du groupe État islamique. Parti le 15 mars 2011 d'un soulèvement populaire violemment réprimé par le régime de Bachar al-Assad, le conflit s'est complexifié avec l'intervention d'acteurs internationaux et l'afflux de djihadistes du monde entier. Bachar al-Assad contrôle à présent environ deux tiers du territoire syrien grâce à l'intervention décisive de la Russie, son principal allié, et de l'Iran. De vastes pans du nord restent toutefois hors de son contrôle. Selon l'ONU, plus de 16 millions de personnes en Syrie ont besoin d'assistance humanitaire ou de protection. Plus de 7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, selon la même source.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et VOAfrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
L'Organisation internationale du cacao, ICO, s'attend à ce que la production mondiale cacaoïère chute de 10,9% pour atteindre 4,45 millions de tonnes cette saison. L'inadéquation entre l'offre et la demande laissera le marché avec un déficit de 374 000 tonnes cette saison contre 74 000 tonnes la saison dernière, selon l'ICO. La production manufacturière sud-africaine a augmenté de 2,6% en janvier après une hausse révisée de 1,3% en décembre, selon les données publiées ce jeudi par l'Agence des statistiques. La production industrielle a augmenté de 0,8% en janvier après avoir chuté de 1,3% en décembre. Pour terminer, la directrice générale de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, la Nigériane Okonjo-Iweala, espère que le nombre de membres requis ratifiera un accord qui vise à éliminer 22 milliards de dollars des subventions à la pêche cette année, malgré la déception de ne pas avoir finalisé le dit accord lors de la récente conférence ministérielle. Selon les environnementalistes, l'élimination de ces subventions destinées à soutenir la pêche non durable pourrait contribuer à inverser la tendance du déclin des stocks de poissons.
Et Yacouba Ouidraogo est là, c'est pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Les rencontres de la Basketball Africa League se poursuivent à Pretoria.
Oui, un seul match ce jeudi à la Sandbet Arena de Pretoria en Afrique du Sud, où se jouent les rencontres de la conférence à Kalahari. Les Marocains de Fus de Rabat et les Angolais de Petro de Luanda, déjà qualifiés pour les playoffs, s'affrontent. Les matchs de cette conférence à Kalahari, qui ont débuté samedi dernier, vont se poursuivre jusqu'à ce dimanche 17 octobre.
Ici à NBA, Denver bat Miami et reprend la tête à l'ouest.
Si à l'Est, Boston, meilleure équipe de la saison, domine outrageusement la conférence Ouest, est plus disputée. Grâce à sa victoire contre Miami, 188, Denver est à nouveau en tête avec un succès de plus qu'Oklahoma City et Minnesota. Luka Doncic a marqué 21 points et Kyrie Irving 23 pour guider Dallas à une victoire 109-99 contre Golden State, qui était privé de Stephen Curry et Draymond Green blessé. Sacramento a dominé les Los Angeles Lakers 120-107. À Indianapolis, DeMar DeRozan a inscrit 46 points pour offrir aux Chicago Bulls la victoire contre les Indiana Pacers 132-129 après prolongation.
Football, l'Inter Miami est en quart de finale de la Coupe des champions CONCACAF.
Lionel Messi et Luis Suarez ont marqué pour permettre à l'Inter Miami de s'imposer contre Nashville 3-1, 5-3 sur l'ensemble des deux matchs. Messi a d'abord offert une passe décisive à Luis Suarez dans le dos de la défense pour l'ouverture du score à la 8e minute, avant de marquer lui-même pour le 2-0 à la 23e. Il a ensuite été remplacé à la 50e minute et son remplaçant Robert Taylor a conforté l'avance pour Miami. L'entraîneur de l'Inter Miami, Gerardo Tata Martino, a déclaré que la sortie de l'Argentin était due à une inquiétude concernant les ischios jambiers de la jambe droite de l'octuple Ballon d'Or. Miami, qui participe pour la première fois à la Coupe des champions, va affronter en quart le vainqueur de la confrontation entre Monterrey du Mexique, qui a gagné 1-0 à l'aller, et Cincinnati des États-Unis.
Et puis, des nouvelles des Jeux africains qui se déroulent au Ghana.
En football féminin, match décisif à Cape Coast entre le Maroc et le Sénégal qui s'affrontent ce soir. L'issue de cette rencontre va déterminer les équipes qui accéderont aux demi-finales dans la poule B. Avant ce match, les Sénégalais ont été sèchement battus 4-0 par les Nigérians, tenantes du titre. Les Lions de l'Atlas, elles, étaient tombées 2-0 devant les Super Falcons du Nigeria.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lyndon, toujours en votre compagnie. Place au dossier du jour. Et on commence par la Guinée où une nouvelle équipe gouvernementale a été mise en place mercredi soir par le président de la transition. Ils sont au nombre de 29 dont 6 femmes. Ces nominations viennent mettre fin à 2 semaines d'attente depuis le choix comme premier ministre et chef du gouvernement de l'homme politique Amadou Ouriba. Voici des réactions à Conakry avec notre correspondant Zakaria Camara.
Il y a d'abord ceux qui ont été reconduits, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, les ministres de la Santé et des Affaires étrangères ont bénéficié de la confiance du chef de l'État. 8 ministres ont passé par un jeu de chaises musicales et c'est donc sans grande surprise pour ces jeunes Guinéens rencontrés dans la banlieue de Conakry.
À mon avis, c'est pratiquement la continuité puisque le noyau a été pratiquement reconduit. Et c'est vrai qu'il y a eu de nouvelles figures qui sont arrivées, mais ce sont des figures qui n'étaient pas loin du système, qui n'étaient pas loin donc de ce régime.
Il n'y a pas eu un remaniement, mais c'est plutôt un réaménagement. Moi, je vois les choses comme ça, puisque ce sont des figures qu'on a déjà connues. Et après, ils ont fait des permutations d'un ministère à un autre. Et je pense que le résultat, ça va pas du tout changer.
D'autres Guinéens, à l'image d'Amadou Goury, se disent ne pas être rassurés par la nouvelle équipe gouvernementale.
Je n'attends absolument rien de ce gouvernement. Bahouri, c'est un bon cadre, mais restez-moi vous dire que je suis sûr et certain que Bahouri n'aura pas la coup de franche pour justement imposer son desiderata au sein du gouvernement. Donc vraiment, je n'aime pas du tout, je suis pessimiste.
De nouveaux visages ont fait leur apparition. Ils forment plus de la moitié de l'équipe et sont issus de l'administration publique. Ce consultant en communication garde un peu d'espoir. Alcini Diallo.
Il faut reconnaître quand même, à un moment donné, les gens attendaient vraiment la liste de ces ministres et je pense que c'est un peu rassurant parce qu'on a vu de nouvelles têtes et ces ministres-là vont pouvoir s'attendre à une tâche lourde et moi j'espère avec leur expérience ils vont pouvoir vraiment nous sortir de ce calvaire qu'on vit au quotidien.
Si on peut compter 2 journalistes au sein de ce gouvernement, au ministère de l'Information et au ministère de la Culture, les partis politiques ont été simplement ignorés. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
L'insécurité grandissante dans la région du Sahel a de lourdes et multiples conséquences sur les femmes et les enfants. Dans la région de Badiangara, dans le centre du Mali, l'intensification des attaques a accentué la pénurie alimentaire, la déscolarisation, et la malnutrition. Les premières victimes, ce sont les femmes et les enfants. De Koro, la correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Les exactions et les menaces des groupes armés ont poussé les déplacés et les réfugiés à trouver refuge à Koro et les autres grandes villes de la région. Comme Hawaromba, beaucoup de femmes peinent à trouver un logement en ville.
Nous sommes venus ici à Koro sans abri, comme tu peux le voir. Nos bagages sont dehors et on n'a plus rien à manger.
Koro, une ville située à la frontière entre le Mali et le Burkina, abrite des centaines de femmes déplacées ou réfugiées. Sur ce site d'exploitation de gravier, Djenebou Maïga est venu pour y travailler afin de gagner un peu d'argent pour nourrir ses enfants.
J'ai fui l'insécurité à Sari pour venir à Koro. Je travaille dans ce site de gravier pour revendre afin de pouvoir nourrir mes enfants.
Kios à la main, elle travaille tous les jours. une activité qui n'est pas sans conséquence sur sa santé.
C'est dur, mais je n'ai pas d'autre solution. La nuit, je dors difficilement à cause de la fatigue. En plus, je tousse presque toute la nuit à cause de la poussière.
Cette année, la Journée internationale des femmes a été célébrée à Kourou en toute simplicité. Une occasion pour les femmes leaders comme Aminata Diko de lancer un appel aux autorités compétentes.
Nous remercions d'abord le pompier d'avoir vu le jour du 8 mars. Mais nous avons des cœurs meurtris dans le cercle de Kourou, actuellement là où on vous parle. On fait frontière au pays frère, le Burkina Faso. Nous avons à Kourou aujourd'hui des femmes qui sont en train de traîner avec des enfants dans les rues. C'est le 8 mars, mais nous avons laissé les familles là-bas. Il y a d'autres femmes qui sont devant les portes, qui disent qu'elles ne servent qu'à manger.
Pour les communautés d'accueil déjà fragiles, le fardeau des déplacements forcés devient de plus en plus insoutenable. Sur place, des bonnes volontés se manifestent afin d'amoindrir la souffrance des femmes déplacées et réfugiées. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Kourou.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chambre des représentants des États-Unis a adopté hier un projet de loi qui obligerait l'application de courtes vidéos TikTok utilisées par environ 170 millions d'Américains à se séparer de son propriétaire chinois ByteDance sous peine d'être interdite. Mais comme le rapporte Catherine Gibson, correspondante de VOA Afrique au Congrès, le texte fait l'objet de critiques quant à la restriction de la liberté d'expression et il n'est pas certain qu'il soit approuvé par le Sénat. C'est un récit de Nathalie Barge.
Après des années d'inquiétude concernant la confidentialité des données sur la populaire application de médias sociaux, les législateurs américains ont pris une mesure clé en appelant à la séparation de TikTok de sa société mère chinoise, ByteDance. La représentante républicaine Kathy McMorris-Rogers.
Aujourd'hui, nous envoyons un message clair. Nous ne permettrons pas à nos adversaires d'utiliser nos libertés comme une arme.
Bénéficiant d'un soutien bipartisan, le projet de loi répond aux préoccupations selon lesquelles TikTok constitue une menace pour la sécurité nationale. Christopher Way, directeur du FBI.
Les Américains doivent se demander s'ils veulent donner au gouvernement chinois la possibilité de contrôler l'accès à leurs données, contrôler les informations qu'ils obtiennent grâce à leur algorithme de recommandation, et s'ils veulent lui donner la possibilité d'exploiter ces données.
TikTok a nié ces allégations. Les initiateurs du projet de loi affirment que le gouvernement chinois a bien la main mise sur cette application des réseaux sociaux. Raja Krishnamurti, président démocrate de la commission spéciale sur la concurrence États-Unis-Chine.
Notre volonté est que TikTok continue de fonctionner, mais pas sous le contrôle du Parti communiste chinois.
La Chine a condamné le vote des législateurs américains. Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Les États-Unis n'ont trouvé aucune preuve que TikTok menace la sécurité nationale. Ils n'ont jamais cessé de s'en prendre à TikTok.
De nombreux législateurs et groupes de défense des libertés civiles estiment que le fait de cibler l'application est injuste et limite le droit des Américains à la liberté d'expression. Le représentant démocrate Robert Garcia.
Toute interdiction de TikTok n'est pas seulement une interdiction de la liberté d'expression. Vous causez littéralement un préjudice énorme à notre économie nationale.
La législation TikTok a relancé le débat sur la confidentialité des données et les libertés individuelles. Joe Judge, citoyen américain.
La sécurité de toutes les plateformes est actuellement sous surveillance. Et pour cause, je n'ai pas vraiment confiance en ces plateformes et leurs informations ces jours-ci. Je suis très préoccupé par leur authenticité.
Le chef démocrate de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a indiqué que les commissions vont examiner le texte qui pourrait se heurter à des obstacles d'ordre juridique. Kathleen Chin-Wortman, chercheuse au Centre d'études stratégiques et internationales.
Le gouvernement aurait de la peine à convaincre un tribunal que cette interdiction est à la fois apte à promouvoir l'intérêt des Américains en matière de confidentialité de données et qu'il n'aurait pas pu prendre de mesures moins restrictives.
Le président Joe Biden a dit qu'il signera le projet de loi s'il est adopté par le Sénat, alors que sa campagne s'est invitée en début d'année sur TikTok pour atteindre les jeunes électeurs.
Alors que le président américain Joe Biden a continué à soutenir la guerre d'Israël contre le Hamas, il semble prendre ses distances avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ce désaccord apparent entre les deux dirigeants a alimenté les spéculations selon lesquelles les États-Unis pourraient restreindre leur aide militaire afin d'influencer la conduite d'Israël dans la bande de Gaza. Suivons cela dans ce reportage de Patsiwida Kwazura, chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche. C'est un récit des Dilidico.
La campagne militaire israélienne à Gaza et ses effets sur les civils palestiniens ont fait l'objet d'une condamnation internationale. Écoutons Joseph Borrell, haut représentant de l'UE pour la politique étrangère.
Le moyen naturel de fournir un soutien par le biais des routes est fermé, artificiellement fermé. La famine est utilisée comme arme de guerre.
Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est défiant.
None of these pressures will stop us.
Aucune de ces pressions ne nous arrêtera. C'est l'avenir même d'Israël, sa survie qui est en jeu.
Mais face au nombre croissant de victimes et à la famine qui frappe les habitants de Gaza, le plus fervent partisan d'Israël, le président Joe Biden, perd patience.
La défense d'Israël est toujours critique, donc je ne veux pas couper la livraison de toutes les armes pour qu'il n'ait pas de dôme de fer pour les protéger. Mais il y a des lignes rouges à ne pas franchir. On ne peut pas avoir 30 000 Palestiniens de plus morts à cause de la poursuite de ce conflit. Il y a d'autres façons de faire les choses.
Joe Biden manifeste de plus en plus sa frustration à l'égard de Netanyahou, notamment en ce qui concerne les politiques israéliennes qui ralentissent l'acheminement par voie terrestre de l'aide humanitaire indispensable. Les États-Unis se sont joints à d'autres pays pour larguer de l'aide par voie aérienne. Washington continue de soutenir Israël avec une aide militaire, mais si Benjamin Netanyahou va à l'encontre des pressions américaines et envahit Rafah, où plus d'un million de Palestiniens sont réfugiés, Joe Biden cessera-t-il d'envoyer des armes américaines à Israël ? Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale.
Nous y travaillons et je ne vais pas me tenir à cette tribune pour entretenir des hypothèses à ce sujet.
À l'approche des élections présidentielles américaines de novembre, Joe Biden veut éviter de donner aux républicains l'occasion de récupérer les votes pro-israéliens. Mais il doit également empêcher les démocrates progressistes, les jeunes électeurs et les Américains musulmans et arabes de l'abandonner en raison de son soutien à Israël. Alors que Joe Biden a soutenu Benjamin Netanyahou dans les premiers jours qui ont suivi les attaques du Hamas le 7 octobre, il prend désormais ses distances. Laura Blumenfeld est analyste spécialiste du Moyen-Orient à l'université Johns Hopkins.
Séparer Netanyahou et ce que Biden considère comme ses politiques de guerre toxiques pour l'État d'Israël afin qu'il puisse continuer à soutenir Israël, ce qui est vraiment son instinct politique sans sacrifier sa morale.
Récemment, Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, a été reçu par les législateurs démocrates, la vice-présidente Kamala Harris et d'autres hauts fonctionnaires américains, un signe du soutien de l'administration au cas où le populaire politicien centriste devient le prochain premier ministre d'Israël. Mais il reste à voir si le revirement de Joe Biden par rapport à Netanyahou suffira à apaiser les Américains en colère contre la politique du président à l'égard de la bande de Gaza.
Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition réalisée avec la contribution de toute la rédaction. Présentation John Linden, production Gisèle Morrison. Merci à vous d'avoir suivi et resté connecté sur notre site internet voafrique.com et sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations 24 heures sur 24. À bientôt.